Donc, vous savez que, il y a quelques semaines, on a commencé juste une petite série qui est basée sur un petit verset de la Bible. Le verset n'est pas long, juste quelques mots. Mais à l'intérieur de ces versets, il y a une puissance incroyable. Vous savez que chaque parole de Dieu est inspirée de lui et que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle a le pouvoir de nous changer. Et dans ces versets, nous voyons quelque chose de tellement, tellement simple, mais à la fois profond. Pour moi, c'est presque une recette pour la réussite. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir actuellement. La stratégie pour avoir une vie réussie. Et combien de vous ici, vous aimeriez avoir une vie réussie? Et quand on parle de la réussite, bien entendu, il y a pas mal d'idées qui peuvent passer par la tête. Il y a le monde qui a leur propre définition de c'est quoi la réussite. Il y a des gens qui pensent que la réussite, ce n'est que des choses naturelles. Qu'est-ce qu'on peut voir si on a un bel job, et un gros salaire, une grosse maison, une grosse auto et tout le kit. Mais vous savez que c'est plus que ça. La réussite, vraiment, selon moi, c'est de faire exactement ce que Dieu nous demande à faire dans la vie et de pouvoir finir notre vie avec cette confiance que quand on se tient devant le trône de Dieu, qu'on va entendre ses paroles, bien fait, bon et fidèle serviteur. Amen. C'est ça vraiment la réussite. C'est ça qu'on veut faire dans notre vie. Moi, je sais qu'on est là, sur la planète Terre. Je suis content d'être ici, mais je sais que c'est juste temporaire. Je sais qu'il y a quelque chose de mieux. Je sais qu'il y a une autre ville même, céleste, qui m'attend. Et vous aussi, n'est-ce pas bon? De savoir que nous sommes les citoyens du ciel, de savoir que nos noms sont écrits dans le livre de vie, de savoir que nous faisons partie d'une famille qui est tellement grande que même aujourd'hui, on a des frères et des sœurs qui sont partout, éparpillés partout vraiment sur la planète Terre, mais en plus ceux qui sont déjà rendus au ciel. Nous sommes vraiment le peuple de Dieu, nous sommes bénis, nous sommes un peuple élu, la parole de Dieu dit, en saint sacerdoce et... Pour moi, c'est un privilège de connaître Jésus. Et pour vous? Amen. Je savais que vous étiez d'accord. Mais on va lire ce verset qui est vraiment notre texte depuis quelques semaines. Et on va continuer à voir c'est quoi vraiment la stratégie pour avoir une vie réussie. Parce que même si on sait qu'on a le ciel qui nous attend, nous avons toute une éternité devant nous, qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre est quand même important. Les décisions que nous allons prendre, les choses que nous allons poursuivre vont en fait déterminer qu'est-ce qu'on va vivre dans l'éternité. Quelqu'un qui choisit de servir Jésus, étant sur la terre, étant dans son corps, il peut avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc on voit que ça c'est vraiment la chose la plus importante, de choisir Jésus étant ici sur la terre. Mais c'est plus que ça. Parce qu'après avoir donné son cœur à Jésus, on a toute une vie à mener, on a des choses à faire, on a un travail, on a une famille, on a une carrière, on a toutes les choses qui font partie de notre existence sur la terre. Et Dieu veut que nous soyons bénis, pas juste au ciel, mais ici. Amen. Et il veut qu'on soit capable de suivre son plan et de l'accomplir. Donc, lisons ceci ensemble. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Encore sur le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul à dire ces mots. Il a dit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » C'est pas long le verset, vous êtes d'accord? C'est court, ça prend quelques secondes de lire cela. Mais il y a du stock là-dedans, on pourrait dire, n'est-ce pas? C'est chargé, c'est... pleine à craquer même de la vérité de la parole de la vérité et de la puissance de la parole de Dieu. Mais regardons, on a déjà regardé plusieurs choses. On a déjà vu le premier mot, veiller, et on a parlé de l'importance de cela. Qu'on a besoin de se réveiller. On a besoin d'être les personnes, les chrétiens qui ne sont pas endormis, mais ceux qui sont prêts à faire face à la vie et on veille parce qu'on sait qu'on a un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais on peut lui résister avec une foi ferme. Et ça, c'est exactement le deuxième point qu'on a vu la semaine passée, en fait. On a vu demeurer ferme dans la foi. Et ce qu'on a vu la semaine passée, c'est que la foi, c'est une chose qui vient par ce qu'on entend, mais la foi, c'est une chose qui peut être petite ou ça peut être grande. On sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée aussi, c'est que même si quelqu'un a une foi qui est forte dans un domaine, ça peut être faible dans un autre domaine. Donc on a besoin de s'examiner pour voir est-ce qu'on est vraiment dans la foi. On a vu également que même si on a la foi aujourd'hui, ce n'est pas une garantie qu'on va l'avoir pour toujours. On a besoin d'augmenter notre foi, nourrir, alimenter notre foi et protéger notre foi. Et on a vu tout cela la semaine passée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site web et écouter le message gratuit. Ça va être une bénédiction pour vous si vous n'étiez pas là. Mais aujourd'hui, on continue dans ce petit texte et on trouve une autre exhortation. Les instructions précises comment réussir la vie. Et la prochaine chose que l'apôtre Paul dit, sous l'inspiration de l'Esprit, il dit, soyez des hommes. Hein? Et là, toutes les femmes disent, oh, qu'est-ce que je fais à l'église aujourd'hui? Hein? Non, mais quand on dit, soyez des hommes, on ne parle pas d'être mâle ou femelle. Ce n'est pas ça vraiment la question ici. Ici, on voit une exhortation de ne plus être enfant, mais d'être adulte. D'être quelqu'un qui est mûr, qui est mature, qui connaît le Seigneur, qui est enraciné dans Dieu, qui est fondé dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est vraiment inébranlable dans sa foi. Soyez des hommes, une maturité. Nous sommes appelés à cela. Et ça, c'est exactement ce que ce verset est en train de nous dire. On a trop de chrétiens qui sont chrétiens même depuis longtemps, qui sont encore enfants aujourd'hui. On a trop des personnes qui ont pris leur foi un peu trop allégée. Ce n'est pas sérieux pour eux. Et je crois qu'ici, on a une bonne exhortation. Soyez des hommes, soyez vrais, soyez matures, soyez adultes. Arrêtez de jouer comme un enfant, mais prenez votre place dans le corps de Christ. Donc, regardez quelqu'un et dites, soyez des hommes, ou soyez un homme, ou même si c'est une femme, peut-être vous devrez dire, sois un adulte. Alléluia. Vous savez que il y a une différence entre être enfant et adulte. Ils disent que la seule différence entre un garçon et un homme, c'est le prix de ses jouets. Mais on sait que c'est plus que ça. Vous êtes d'accord? C'est pas ça qui fait la différence entre un enfant et un homme. Il y a des qualités, des caractéristiques qu'on a besoin d'adopter. Dans le fond, être un vrai homme ou une vraie femme de Dieu, quelqu'un qui est adulte dans le Seigneur, c'est d'être tout simplement semblable à Jésus. C'est d'être conforme à son image, d'avoir les mêmes genres de pensées qu'il a, les mêmes attitudes qu'il a, les mêmes comportements que Jésus. Il faut penser, parler et agir comme Dieu. Et là, ça, c'est la marque de la maturité. Mais on va voir juste quelques versets ce matin qui parlent de cette maturité. Et nous allons voir tout simplement comment croître spirituellement. Est-ce que ça vous intéresse? Hein, je veux être vraiment terre à terre. Les choses simples, mais les choses qui sont garanties. Tout le monde dit garanties. Hein, c'est pas le loto ici, c'est pas une bonne chance, mais c'est garanti à marcher dans votre vie si vous la mettez en pratique. Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers, et je lis dans le français courant, c'est lui, en parlant de Jésus, qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres, des prophètes, d'autres encore, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Pour faire quoi? C'est quoi le prochain mot? Pour faire croître le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons quoi? Des adultes, dont le développement atteindra à la stature, quoi? Parfaite. Le mot parfait ici, ça parle de la maturité, à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons, tout le monde dit nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne, j'aimerais que vous souligniez cela, lorsque chaque partie fonctionne, laisse-moi vous poser une question, est-ce que vous faites partie du corps de Christ? Oui? Alors, donc, ce verset parle de vous. Lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier, c'est quoi le prochain mot? Grandit et se développe par l'amour. Donc là, on a encore cette belle image. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Dieu veut que l'Église croît. Dieu veut que l'Église grandit. Dieu veut que l'Église soit développée. Et encore, nous savons tous que quand on vient au Seigneur Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes passés de la mort à la vie, spirituellement. Et nous sommes venus dans le monde spirituel, pas adultes, mais nous sommes nés bébés. N'est-ce pas vrai? Nous sommes les enfants, même les nourrissons en Jésus-Christ. Et nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'atteindre la maturité. Et il y a plusieurs commentaires que j'aimerais faire, juste pour comme nous préparer pour recevoir la viande du message ce matin. Mais il y a trois choses que je veux souligner, trois vérités qui sont importantes pour nous à comprendre. Première chose qu'on voit est juste le fait que l'apôtre Paul avait besoin de dire « Soyez des hommes ». Ça nous montre quelque chose, c'est que la croissance spirituelle n'est pas automatique. C'est-à-dire que tu viens au Seigneur et tu es né de nouveau et 20 ans plus tard, vous n'êtes pas forcément adulte. 50 ans plus tard, tu peux être encore bébé. C'est pas comme dans le monde naturel. Dans le monde naturel, un enfant va naître. Et même si les mamans, j'en ai parlé une fois, même si les mamans aimeraient peut-être garder l'enfant bébé parce que maman aime les nourrissons, veut pas, cet enfant va grandir aussi longtemps que l'enfant est en santé. Si tout est normal, si les systèmes naturels du corps sont pas malades, l'enfant veut pas va grandir. Okay? Aussi longtemps qu'il mange, aussi longtemps qu'il respire, aussi longtemps qu'il boit, l'enfant va pousser et grandir. OK? Mais savez-vous quoi? C'est vrai et c'est pas vrai dans le domaine spirituel. Parce que la croissance spirituelle n'est pas automatique, à moins que vous soyez vraiment en santé spirituelle. Si vous êtes en santé spirituelle, oui, à ce moment-là, vous allez croître. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en santé spirituelle et cette croissance n'est pas automatique. C'est pourquoi on a des bébés qui sont chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Quand je dis qu'ils sont des bébés, je veux dire quoi? Je veux dire qu'ils ne sont toujours pas conformes à l'image de Jésus. Ils n'ont pas encore les pensées de Christ. Ils ne parlent pas comme Dieu veut qu'ils parlent. Ils n'agissent pas comme Dieu veut qu'ils agissent. Ils sont encore dans un état où on ne peut même pas les distinguer avec les gens de ce monde. Vous savez que la Bible, dans le fond, ça c'est juste une petite parenthèse, la Bible parle de trois catégories d'hommes. Hein? La Bible dit « Soyez des hommes », mais quel genre d'hommes? La Bible parle des hommes naturels, comment on dit les hommes naturels? Ça, c'est les hommes qui ne connaissent pas Jésus. Quelques versions disent « C'est l'homme animal ». Et la Bible dit, par exemple, que l'homme naturel ou animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'ils sont discernés spirituellement. Et quelqu'un qui est mort spirituellement, son esprit n'est pas encore né de nouveau. C'est un homme animal ou naturel. OK? Il n'a pas la connaissance intime de Dieu. Peut-être qu'il a une connaissance dans sa tête, mais il ne connaît pas Dieu. Donc, c'est un homme naturel. Et puis, la Bible dit qu'il y a une autre catégorie d'hommes, et ça, c'est l'homme spirituel. Ça, c'est un homme qui est né de nouveau, mais qui est dominé par les choses de l'esprit, qui est en train de manifester l'amour de Dieu et le fruit de l'esprit. Et entre les deux, il y a une troisième catégorie d'hommes, et c'est ce que la Bible appelle un homme charnel. Un homme charnel, c'est un homme qui est passé de la mort à la vie. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui n'est pas pécheur, mais qui est vraiment sauvé, sauf que il ne se laisse pas dominer par les choses de l'esprit, il se laisse dominer par les choses de la chair. Et le problème, c'est que on ne peut pas vraiment, à la vue, distinguer un homme charnel d'avec un homme naturel, et ils se ressemblent. Il fait le même genre de choses qu'un homme qui ne connaît pas Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça le problème. Dans les églises, on a des personnes qui sont nés de nouveau, mais ils sont encore bébés ou encore charnels. Et notre but, c'est d'être des hommes. Paul a dit, soyez des hommes. Soyez adultes. Et c'est ça notre désir, n'est-ce pas? Et voilà la bonne nouvelle. On a des instructions. On a les choses dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider. Donc, première chose, la croissance spirituelle n'est pas automatique. Mais il y a deux autres choses que je veux souligner avant de vous montrer, oui, mais comment est-ce qu'on peut le faire? Deuxième chose, c'est que la croissance spirituelle est notre responsabilité. OK? Oui, dans un sens, le pasteur, les dons du ministère, nous avons un rôle à jouer. Moi, j'ai une responsabilité pour votre croissance spirituelle jusqu'à un certain point. Hein? Ma responsabilité, c'est de vous donner l'occasion d'entendre la parole de Dieu et d'entendre les prédications et avoir les enseignements, de vous encourager, vous équiper. Mais c'est votre responsabilité d'en profiter. Amen. Et c'est votre responsabilité également de vous nourrir vous-même. Parce que, comme je dis souvent, le dimanche matin, moi, je me regarde comme un peu comme un serveur au restaurant. Vous arrivez dans un bon restaurant, le serveur arrive avec le menu, il va vous expliquer le menu. Peut-être vous avez des questions. C'est quoi ça, hein? Je ne sais pas c'est quoi un, hein? Je ne sais pas. Dis-moi quelque chose, un maître exotique. Et vous, des fois, on lit quelque chose sur un menu, c'est quoi ça? Et le serveur va expliquer. Oh, mais ça, c'est une telle chose avec une telle sauce ou quoi que ce soit. Ah, ok, bon, je vais le prendre. Mais dans le fond, quand vous venez à l'église le dimanche matin, ma job, c'est pas juste de vous nourrir, c'est plutôt vous montrer le menu. Et pendant toute la semaine, vous pouvez déguster à la maison les mets succulents de la parole de Dieu. Mais si vous pensez que vous allez pouvoir venir à l'église et entendre un message par semaine et puis vraiment croître avec ça, grandir ou être bien nourri, vous vous trompez vous-même, c'est pas assez. Donc, on voit encore que la croissance spirituelle est notre responsabilité. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai le pouvoir de déterminer le rythme de ma croissance. Je peux faire des choses pour accélérer ma croissance et je peux grandir plus vite. Ou je peux faire autre chose pour ralentir ma croissance ou pour même arrêter ma croissance spirituelle. Et là, je reste pareil. Mais c'est vraiment ma responsabilité. La troisième chose qu'on voit, c'est que la croissance prend un acte de notre volonté. C'est ma responsabilité, donc j'ai besoin de choisir. Je veux grandir. Mais voilà la bonne nouvelle. C'est ma responsabilité. OK? C'est un acte de ma volonté qui va déclencher la croissance spirituelle, mais c'est Dieu qui me fait croître. Tout le monde dit, c'est Dieu qui me fait croître. Il y a un verset de la Bible qui dit, il y a une qui plante, il y a un autre qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça, c'est vraiment un bon exemple, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que, on prend l'exemple d'un fermier. C'est la responsabilité du fermier de planter, de semer son champ, n'est-ce pas? C'est pas la responsabilité de Dieu de faire en sorte que le grain se trouve planté dans la terre. C'est la responsabilité du fermier d'aller dans le champ et de planter les graines. Et ça peut être aussi sa responsabilité dans certains cas, si la pluie ne tombe pas tout seul, des fois d'installer un système d'irrigation et de faire en sorte que la semence soit arrosée. Mais une fois qu'il a fait, il a réalisé, ma responsabilité, c'est d'aller et de planter. Ma responsabilité, c'est d'arroser. J'ai fait un acte de ma volonté. J'ai pris une décision de le faire. J'ai planté, j'ai arrosé. Maintenant, Seigneur, le reste est entre tes mains. C'est toi qui vas faire pousser le blé d'Inde. C'est toi qui vas faire pousser les patates. C'est toi qui vas faire pousser la récolte. Et ça, c'est exactement la même chose quand on parle de la croissance spirituelle. C'est notre responsabilité. Nous avons besoin de faire un acte de notre volonté pour faire les choses, pour planter et pour arroser, mais tout en sachant que Dieu va nous faire croître. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais pour moi, c'est encourageant de savoir que nous sommes, en fait, dans le même passage qui parle de planter, arroser, que c'est Dieu qui fait croître. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. On va le dire ensemble. Je suis ouvrier avec Dieu. Alléluia. Donc, on plante, on arrose, mais Dieu nous fait croître. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les choses que nous pouvons faire pour accélérer ou déclencher notre croissance spirituelle? C'est vraiment pas des choses compliquées. C'est ça que j'aime avec Dieu. Le Seigneur, il nous donne pas les instructions qui sont tellement compliquées que ça prend un avocat pour pouvoir discerner le blabla juridique de sa parole ou quoi que ce soit. Non, ça, c'est simple, c'est net, c'est clair, c'est précis. Dieu nous donne les instructions. Savez-vous que c'est pas trop compliqué dans le fond planter une graine et l'arroser? On fait ça des fois dans les écoles de dimanche. On va avoir les enfants qui arrivent et on leur donne un petit pot ou un petit tasse en styrofoam avec un peu de terre et de jardin et on va leur donner un petit grain. Et on dit, bon, mais mets le grain dans la terre et puis mettre de l'eau dessus et à chaque jour ou à chaque quelques jours, mettez de l'eau et qu'est-ce qui arrive? Ça pousse. Vous êtes d'accord que si un enfant de 3 ans est capable de faire cela, c'est pas trop compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Là, je vais vous dire, la croissance spirituelle n'est pas beaucoup plus compliquée que ça. C'est pas beaucoup plus compliqué, c'est le même principe. On plante, on arrose, et Dieu nous fait croître. Le problème, c'est que si on ne prend pas la peine de planter, ni arroser, ça ne va pas croître. Avec quelques-uns, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais planté. Avec d'autres, ils ont planté la semence, mais l'enfant qui arrive à la maison avec son petit tasse et ça commence à pousser, mais puis pendant 3 semaines, il oublie de l'arroser, qu'est-ce qui va arriver? Ça va mourir. Et c'est exactement l'image de qu'est-ce qui se passe dans nos vies chrétiennes des fois. Et on a besoin de faire attention. Donc, quelles sont les choses qu'on peut faire pour déclencher ou accélérer notre croissance spirituelle, pour être des vrais hommes, pour devenir adultes dans le royaume de Dieu? Est-ce que des gens qui veulent être adultes? Première chose, c'est facile. Numéro 1, désirer la parole. Désirer la parole. Posez-vous la question, est-ce que je veux la parole? Est-ce que j'ai un désir pour la parole de Dieu? Bonne nouvelle, c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et même, laisse-moi vous donner un bon conseil. Et ça peut peut-être soulager quelques personnes. Votre chair ne désire jamais la parole. Donc, si des fois vous n'avez pas le goût de lire la parole, méditer la parole, écouter la parole, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé, que vous n'êtes pas un bon chrétien. Cela veut dire que vous êtes humain, que vous êtes dans un corps qui n'est pas encore racheté. Amen. Mais dans votre cœur, si vous êtes honnête avec vous-même, tout enfant de Dieu a le désir pour la parole de Dieu. Mais on a besoin de saisir le désir. Amen. Il faut saisir le désir. Il faut désirer comment, en fait, c'est vraiment graphique. C'est beau l'image que nous avons ici. 1 Pierre 2:1 dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc on sait quelque chose ici. Comme un nouveau-né désire le lait. Combien de vous avez eu des bébés qui pleurent la nuit parce que il a soif et il veut boire du lait? Hein, on sait que quand un bébé a faim, le bébé va tout faire pour capter notre attention, n'est-ce pas vrai? Et il ne nous envoie pas un message texte ou un email ou laisse pas un message de le répondeur pour dire « Et si vous avez le temps plus tard ce soir, maman, j'aimerais bien que vous veniez me donner un biberon ou quelque chose. Hein? » Non, c'est plutôt « Ah! Maintenant, j'en ai besoin! » Et dans un sens, on a besoin de cette attitude par rapport à la parole. C'est comme « Ah! Oh, j'ai faim de la parole de Dieu. J'ai besoin de me nourrir. Je veux désirer la parole. » Et si on n'est pas là, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et dit « Seigneur, pour être honnête, j'ai pas ce désir actuellement qui se manifeste. Mais je vais prendre une décision. C'est ma responsabilité. » Tout le monde dit « C'est ma responsabilité. » Et par un acte de ma volonté, je choisis de désirer la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose. J'ai déjà fait toute une série là-dessus et j'en ai parlé du fait qu'on peut quand même contrôler nos désirs. Moi, j'ai décidé, par exemple, il y a 24 ans, ou presque 25 ans, j'ai pris une décision de désirer cette femme-là, à l'exclusion de toute autre. J'ai fixé mon affection sur cette femme-là. J'ai pris un acte de ma volonté et c'est tellement facile parce qu'elle est tellement fine. Mais, vraiment, je veux que vous compreniez quelque chose. On peut programmer nos désirs. C'est certain que la chair va toujours désirer faire des choses qui ne sont pas bonnes. Notre cœur désire toujours faire la bonne chose. Donc, dans notre tête, dans nos émotions, dans notre âme, c'est là où la bataille est en train de vraiment se faire. C'est entre nos oreilles. Je peux renouveler mon intelligence, prendre une décision que, Seigneur, je vais désirer ta parole plus que je désire autre chose. Plus que je désire l'argent, plus que je désire le succès, plus que je désire quoi que ce soit. Je veux et je vais désirer ta parole comme un enfant nouveau-né. Amen. Tout le monde dit, je désire la parole de Dieu. Et si vous désirez la parole, si vous désirez quelque chose vraiment, vous allez trouver un moyen pour l'avoir. Que ce soit quelque chose de bon ou pas bon, si vous le désirez vraiment et vous nourrissez ce désir, vous allez trouver un moyen de le faire. Et c'est-à-dire que pour croître spirituellement, il faut planter la parole, il faut arroser la parole, c'est-à-dire il faut désirer la parole. Plus que toute autre chose. Il faut que ça soit une priorité dans notre vie. Amen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on veut croître spirituellement, marcher dans l'amour. Hein? Ça, c'est une clé primordiale. Si je veux être adulte, si je ne veux pas être un bébé spirituel, il faut que je marche dans l'amour. Savez-vous que un enfant... D'habitude, de nature, les enfants sont égoïstes, n'est-ce pas vrai? C'est mon biscuit, c'est mon ballon, c'est mon jouet. OK? Ça, c'est un enfant. Quelqu'un qui est mature est prêt à partager. Mais savez-vous quoi? Combien de vous, vous avez déjà rencontré des adultes naturels, qui sont dans les trentaines, quarantaines, cinquantaines, soixantaines, mais qui sont toujours en train de démontrer ces attitudes égoïstes. Ça, c'est à moi, c'est mon affaire, c'est je ne sais pas. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que vous êtes comme ça? Non, non. On les prend la main. On a tous été comme ça. Et on a tous encore une tendance. moi, je pourrais être comme ça demain matin. Si je déciderais de laisser ma chair me dominer, je pourrais être très égoïste. Et vous? Dis-moi pas que vous n'êtes pas capable d'être égoïste. On est tous capables d'être égoïste, mais on peut prendre une décision de qualité, de laisser l'amour de Dieu qui est dans notre cœur nous dominer, au lieu de laisser la chair nous dominer. Nous sommes les hommes spirituels, les adultes. Soyez les hommes. OK? Soyez les hommes. Et encore, on voit quelque chose de super important ici. Marchez dans l'amour. Éphésiens 5:1 dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Vous vous rappelez, on a déjà lu Éphésiens 4:15, mais je vais le lire dans la parole vivante qui dit, « Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. » Je veux que vous souligniez cela. Prêchions par toute notre vie. On doit vivre d'une manière où on prêche l'amour par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous quoi? Nous grandirons. On parle de comment croître spirituellement. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Bonne nouvelle! On est tous destinés à être conformes à l'image de Jésus. Vous et moi, nous avons la capacité, si nous sommes nés de nouveau, de aimer comme Dieu aime. Avez-vous pensé à ça, dernièrement? C'est quoi le plus grand commandement que Jésus nous a donné? C'est aimez-vous les uns les autres. C'est quoi la prochaine chose qu'il dit? Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Là, Jésus parle aux hommes. Il dit aux hommes, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire avec exactement le même genre d'amour que j'ai pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. L'amour est désintéressé, la chair est égoïste. Donc, si je marche dans l'amour, je suis en train de grandir et de démontrer une maturité spirituelle. Voulez-vous savoir qui est mature et qui n'est pas mature? C'est pas la personne qui prophétise. C'est pas la personne qui parle la langue le plus fort. C'est pas la personne qui a un ministère de signes, miracles et des prodiges. La personne qui est mature, le vrai adulte dans le Seigneur, c'est l'homme et la femme qui marchent dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ. La personne que quand il est critiqué, il se laisse pas offenser. La personne que quand quelqu'un lui fait tort, au lieu de se venger, il va lui faire du bien. L'homme qui est prêt à aimer sa femme comme Christ aime l'Église et la femme qui est prêt à respecter son mari, ça c'est l'amour, ça c'est la maturité et c'est ça que Dieu veut dans son Église, n'est-ce pas? Soyez des hommes, marchez dans l'amour et désirez la parole. Troisième chose qu'on voit, maîtrisez votre langue. Un homme mature, une femme mature, c'est un homme et une femme qui est capable de contrôler sa langue. Et savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables de le faire. Alléluia! Nous avons tous la capacité de dire des choses qu'on regrette. Moi, j'en ai fait. Est-ce que vous avez fait? Non. Gardez ça secret. Maîtrisez votre langue. Regardons bien qu'est-ce que Jacques dit. Jacques, chapitre 3, verset 2, c'est tellement fort. Il dit, « Chacun de nous fait des fautes sur bien des points et bien des manières. Celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état d'adulte. » Ça, c'est notre sujet, n'est-ce pas? Soyez des hommes, soyez matures, grandissez. Il faut croître spirituellement. Donc, il faut désirer la parole, marcher dans l'amour et maîtriser sa langue. Alléluia. Ça, c'est une marque de maturité. Quelqu'un qui est capable de tenir la langue quand tout le monde est en train de le blaster, tout le monde est en train de le critiquer ou le calomnier, la personne dit les paroles saines, pures et édifiantes. Ça, c'est la maturité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient arriver là? Moi, mon but, c'est d'arriver à cette place où, en tout temps et à chaque instant, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'arrive là. Je ne suis pas arrivé, hein? Je ne veux pas vous donner l'impression que le pasteur est parfait et que lui dit toujours, et j'ai jamais, une seule fois depuis 24 ans, dit une bêtise. J'aimerais être capable de dire cela, mais je serais menteur. Et je crains trop l'Éternel de dire mensonge comme ça. Mais et c'est ça, vraiment le défi pour moi en tant que pasteur, c'est de vous encourager à viser la perfection, c'est-à-dire la maturité, mais en même temps de ne pas vous culpabiliser en disant, oh, mais regarde toutes les fois que j'ai manqué la coche. On a tous manqué la coche. On a tous piqué des crises. Mais moi, en tout cas, peut-être vous, mais je sais qu'il y a quelques-uns. Oh non, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais... Non, non. On a tous eu des moments de faiblesse. On a tous eu des moments où on a cédé au désir de la chair. On a tous eu ça, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le message n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'espérance. C'est un message de foi. C'est un message d'encouragement. En disant que oui, peut-être vous êtes tombé, mais vous pouvez vous redresser. Vous pouvez vous lever debout, enlever la poussière et courir vers le but. Vous avez agi comme un enfant. Peut-être vous êtes embarrassé, peut-être vous avez honte de cela, c'est pas grave. Demandez pardon. Continuons avec le Seigneur. Grandissons en lui. Soyez des hommes. Quel homme n'a pas fait des erreurs? On a juste à regarder les apôtres même. L'apôtre Paul avait besoin de corriger l'apôtre Pierre, même publiquement devant les autres. On voit les bêtises que les apôtres ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, toutes les choses de pas correctes, mais Dieu a quand même travaillé avec eux et à travers eux. Amen. Donc aujourd'hui, c'est un message d'espoir, mais quand même, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, c'est de baisser le standard en disant, oh écoute, qu'est-ce que je veux pas entendre chez les chrétiens, c'est que, oh mais écoute, je suis fait de même. Quelqu'un qui parle sec et brut et qui est impoli et quelqu'un qui dit des bêtises et dit, oh, mais écoute, ça c'est juste moi, si tu l'aimes pas, tant pis, c'est mon tempérament, Dieu m'aime quand même. Non, ça c'est pas une excuse. On doit viser la perfection. On doit viser la maturité. Tout en sachant que c'est un processus, un cheminement et qu'on va tomber en route deux fois, mais on peut se redresser et continuer. Amen. Alléluia. Mais maîtriser notre langue. Et voici la clé pour maîtriser la langue. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si votre cœur est rempli d'amour, si votre cœur est rempli de l'esprit, vous allez parler selon l'amour et parler selon l'esprit. Que aucune mauvaise parole sorte de votre bouche, mais seulement, dites seulement les paroles qui communiquent une grâce, n'est-ce pas? Et qui édifient. Numéro 4. Quatrième chose qu'on peut faire pour grandir spirituellement, marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit. Encore, ça c'est un point important. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez essayer de croître seulement et uniquement par votre propre force naturelle et ça ne marchera pas. Ça serait comme quelqu'un qui essaie de faire croître une récolte sans l'aide de Dieu. Savez-vous que c'est impossible? On plante, on arrose, mais Dieu fait croître. Il y a une puissance dans la semence, n'est-ce pas? Il y a un pouvoir, il y a de la vie dans la semence. Et c'est qui a mis la vie là? C'est Dieu. Et ça, c'est la semence de la parole de Dieu, c'est une semence vivante. Amen? Quel pouvoir, quelle puissance. Moi, je pensais à ça une fois, je méditais cela et j'habitais dans une place où on avait un patio en béton en arrière de la maison. Et il y avait un arbre pas loin. Mais cet arbre, je pensais à ça, a commencé juste avec une petite semence. Mais avec le temps, cette semence a poussé. Il y avait tellement de pouvoir et puissance dans la semence que ça a poussé, 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 et que les racines ont été élargies jusqu'au point où c'est entré en dessous du béton, et le béton a été fissuré, craqué, croche. Vous avez déjà vu cela? C'est quoi? C'est quand même, le béton, c'est quand même assez solide, mais cette petite semence avait assez de puissance que ça a tout détruit en patio, une patio. Et l'arbre était quand même loin. Savez-vous la puissance qui est dans la parole de Dieu? Si vous plantez, si vous arrosez, Dieu va faire croître sa parole dans votre vie. Et ça, les racines, ça va tellement enraciner dans votre être, ça peut aller et détruire toutes les forteresses que l'ennemi a établies. Des fois, vous avez des habitudes, pour vous, c'est comme couler en béton. Hein, ça c'est juste moi, c'est, je suis comme ça, c'est coulé en béton. Mais laisse-moi vous dire, la puissance de la parole peut briser le béton. Ça peut donner une autre chance à une autre vie pour vous. Amen? Alléluia. Mais marcher selon l'esprit, c'est important parce que l'esprit a inspiré la parole. L'esprit habite en vous. Et l'esprit veut vous remplir aussi. Regardons, il y a un bon verset que j'ai mis dans vos notes ici. En Corinthiens 3, 1 dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes, quoi? Charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Il dit juste des hommes naturels. Encore, il est en train de dire, il n'y a aucune différence entre vous, les Corinthiens, qui sont charnels, et les hommes naturels qui sont même pas nés de nouveau, il n'y a pas de différence et c'est pas correct. Vous marchez selon la chair et parce que vous marchez selon la chair, vous êtes encore enfant, vous êtes bébé et vous n'êtes pas des hommes spirituels. Mais regarde bien, voici le remède. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon quoi? L'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et aujourd'hui, j'ai vraiment dans mon esprit qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'être libérées. Parce que vous êtes sous comment je dirais ça, vous vivez avec un sentiment de condamnation. Vous vivez avec un sentiment de culpabilité et de la honte. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes chrétien. Vous savez que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais vous savez que les choses que vous faites, votre façon de penser, agir, n'est pas correcte. C'est pas en ligne avec les principes de la Bible. Et à cause de cela, il y a une certaine frustration, déception, condamnation et même culpabilité. Et souvent, les personnes mettent en question même leur salut. Qu'est-ce que c'est ça? Je pensais que j'étais une nouvelle création. Oui, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit habite dans votre cœur. Le problème, c'est que vous avez encore ce chair et vous aurez toujours la chair. Vous n'allez jamais vous débarrasser de votre chair avant l'enlèvement ou avant votre mort. Et là, on va avoir un nouveau corps. Ça va être bon, n'est-ce pas? Combien de vous avez hâte d'avoir ce nouveau corps? Mais laisse pas l'ennemi vous culpabiliser. Comme je dis, aujourd'hui, sans Jésus, nous sommes tous perdus. Sans l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, on est tous faits, n'est-ce pas? On a besoin de lui, on a besoin de son amour, son pardon, sa miséricorde et sa grâce, n'est-ce pas? Et je pense que ce matin, le Seigneur veut remplir votre cœur avec une révélation de son amour pour vous. Mais tout en sachant que quand il vous a sauvé, il a placé à l'intérieur de vous son esprit, sa nature, son caractère.
et que si vous pouvez apprendre à développer et faire croître et grandir votre esprit, changer votre façon de penser pour que votre âme et votre esprit soient en accord, là, vous allez pouvoir marcher au-dessus des désirs de la chair. Les désirs de la chair seront toujours là, mais ça serait tellement, tellement, c'est comme une voix. Savez-vous que chaque partie de votre être a une voix? Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous habitez dans un corps. Votre esprit, c'est votre âme intérieure, votre cœur est né de nouveau. Et votre esprit a une voix. Votre corps est infecté par le péché et votre corps a une voix. Votre esprit crie toujours, je veux aimer Dieu, je veux aimer mes amis, je veux aimer mon entourage, je veux faire la volonté de Dieu, je veux dire oui au plan de Dieu. Votre chair dit, je suis égoïste, moi, donne-moi, fais ça pour moi. La chair crie fort. Le problème, c'est que nous sommes habitués depuis des années à écouter la voix de la chair. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de nourrir notre esprit pour que la voix de notre esprit devienne tellement forte. Et en plus, notre âme, c'est quoi notre âme? C'est notre intelligence, nos émotions et notre volonté. Notre âme a une voix aussi. Et si la voix de mon âme s'accorde avec mon esprit, je vais faire la volonté de Dieu. Et si la voix de mon âme s'accorde avec la chair, je vais faire des bêtises. Donc, encore, on parle de comment croître spirituellement. Ce n'est pas un mystère. Planter, arroser, Dieu va faire croître. Et si tu marches selon l'esprit, c'est-à-dire, si tu es dominé par ton âme intérieur, au lieu d'être dominé par ton âme extérieur, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Romains chapitre 8 dit, « Par l'esprit, nous faisons mourir les œuvres de la chair. » On est toujours à Galates 5, 16, on va le lire ensemble. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier dans l'esprit. On doit prier à notre langue. On doit prendre une décision de nourrir notre âme intérieure pour que la voix de notre cœur soit plus forte que la voix de notre corps. Et puis, on va finir par faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Numéro 5, on va terminer avec ceci. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être un homme? Comment est-ce qu'on peut croître spirituellement? Désirer la parole, marcher dans l'amour, maîtriser votre langue, marcher dans l'esprit, et puis finalement, apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est une chose pratique, mais regardons ce verset. Ce verset est tellement riche. Hébreux 5, 11 dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être les maîtres, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'est pas l'expérience de la parole de justice, car il est un quoi? Enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Regarde, quelqu'un a dit, « Soyez un homme. » Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Savez-vous que la maturité spirituelle est démontrée? Plusieurs choses. Quelqu'un qui désire ardemment la parole de Dieu? Oui. Quelqu'un qui marche dans l'amour? Quelqu'un qui maîtrise sa langue? Quelqu'un qui marche selon l'esprit au lieu de accomplir les désirs de la chair? Mais un homme, une femme mature, un adulte dans le Seigneur, il est capable aussi de distinguer entre le bien et le mal. Il y a quelque chose qui vient dans le cœur. Et je pense à cela. Je pense à l'apôtre Paul quand il est allé à Athènes. Il était dans une ville remplie d'idoles. Et quand il était dans ce parc avec toutes ses idoles et ses images, la Bible dit que dans le fond, dans son esprit, il était perturbé. Posez-vous la question, c'est quand la dernière fois que vous étiez perturbé par les choses de ce monde. Je pense qu'on a besoin de faire attention. Je crois qu'on risque à être cicatrisé, si vous voulez. C'est comme si on a perdu du sentiment des fois. Il y a des choses qui se passent. Le monde appelle le bien mal et ils appellent le mal bien. Et pour nous, c'est correct. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire dans son Église, je crois. Il veut pas qu'on devienne les « je suis plus saint que toi » ou avoir un sentiment de justification de soi. C'est pas ça. C'est pas du tout dans un sentiment de où on va regarder à travers notre nez aux autres, dit bon, mais vous êtes les méchants pécheurs, mais moi je suis vraiment quelqu'un. C'est pas ça. N'oubliez pas le publicain et le pharisien. Vous vous rappelez de cela? Oh Seigneur, je te remercie, je ne suis pas comme ce publicain. Moi je donne ma dîme, moi je fais ceci, moi je fais cela. Non, c'est pas ça. Ça pue au nez de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais quand même, il y a ce côté qu'on a besoin de développer, d'être capable de juger et de distinguer entre le bien et le mal. Et ça vient avec le temps. Comme on a vu, qu'est-ce qui est marqué? Pour ceux dont le jugement est exercé, comme on dit exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça, c'est une autre marque de maturité. Il y a une certaine sainteté qui s'installe chez les hommes et les femmes de Dieu qui sont matures. Et ça, c'est une chose, comme je dis, qui vient avec le temps. Il y a un verset en Ésaïe 5, 20. On termine avec ceci, c'est le dernier verset. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à croître. C'est notre responsabilité. Amen. C'est pas automatique. C'est notre responsabilité. Ça prend un acte de notre volonté. Qu'est-ce que je décide de faire? Je vais désirer ardemment la parole de Dieu. Je vais marcher dans l'amour. Je vais maîtriser ma langue. Je vais marcher dans l'esprit et je vais apprendre à discerner entre le bien et le mal. Et là, je vais arriver à la mesure de la stature de l'homme fait. C'est-à-dire, je vais arriver à la maturité et devenir adulte. Je serai vraiment un homme. Et ça, c'est ma prière pour nous tous cette année, de continuer à croître et de continuer à grandir jusqu'au moment où on peut dire on est vraiment les adultes. Et savez-vous quoi? Même si vous êtes adultes, on peut être des jeunes adultes aussi. On a toujours de la place pour l'amélioration, n'est-ce pas? On va toujours grandir jusqu'au jour qu'on va voir Jésus face à face. Mais il vous aime tellement. Et je vous aime aussi. Tania va venir au piano et on va prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Encore, je vous ai montré le menu aujourd'hui. Je vous invite à déguster pendant toute cette semaine. Prendre ces versets, méditer ces versets, demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mettre cela en pratique, désirer la parole de Dieu cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour marcher dans l'amour davantage cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour maîtriser ma langue cette semaine? Que puis-je faire pour marcher dans l'esprit davantage? Seigneur, enseigne-moi à discerner entre le bien et le mal. Seigneur, je veux devenir adulte. Je veux grandir. Alléluia. Alléluia. Merci, Père Céleste. Est-ce qu'on peut se lever debout? On va prier ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Moi, j'ai vraiment, dans mon esprit, je ressens une douce présence de l'Éternel ce matin. C'est vraiment une présence de miséricorde et de grâce. Notre Papa qui nous appelle et qui nous encourage à grandir. Savez-vous, moi j'ai 5 enfants et je veux que mes enfants deviennent adultes. Mais je ne suis pas là pour les chicaner et être dur avec eux à chaque fois qu'ils font une erreur. Je suis là pour les discipliner, oui, les corriger, oui. Mais en même temps, j'aime mes enfants. Si jamais ils tombent ou si jamais ils font quelque chose qui n'est pas correct, mon amour pour eux ne change pas. Oui, des fois, j'ai besoin de dire, c'est pas correct. Ça change. Mais, je les aime. Et je suis pour eux. Et je veux qu'ils grandissent. Je veux qu'ils deviennent adultes. Je veux qu'ils mènent une vie victorieuse. Et je veux qu'ils aient du succès. Et si moi, qui est un homme imparfait, si j'ai tant d'amour pour mes enfants, si je veux tellement qu'ils grandissent en santé, si je veux tellement qu'ils réussissent dans leur vie, à combien plus fort raison est-ce qu'on peut être convaincu que notre Papa au ciel, il veut qu'on devienne adulte. Mais c'est pas d'une manière dure, c'est pas « Hey, vous, grandissez ». Non, soyez des hommes, oui. C'est une exhortation, c'est fort. Mais c'est avec amour. C'est avec compassion. C'est en sachant que sans sa puissance et son pouvoir, on est dans l'impossibilité de le faire. On peut planter, on peut arroser, mais Dieu va nous faire croître. Merci, Père Céleste. Ce matin, j'aimerais vous donner une invitation. Je fais ceci à tous les dimanches matin. Peut-être vous êtes ici et vous dites, mais pasteur, moi, ça m'intéresse, je vous entends parler de croître et de grandir et devenir un adulte spirituel, mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne savez pas à 100% que vous êtes vraiment enfant de Dieu aujourd'hui. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, posez-vous la question, soyez honnête avec vous-même. Si en quittant la salle aujourd'hui, votre cœur arrête de battre et vous tombez mort et votre esprit quitte votre corps, avez-vous l'assurance d'aller au ciel? Savez-vous sans aucune doute que vous avez une place réservée pour vous? Vous dites, mais j'espère, je suis une bonne personne, je lis la Bible ou je vais à l'église. Toutes ces choses sont des bonnes choses, mais c'est pas ça qui peut vous donner cette assurance. La Bible est claire que un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ, homme. Et si tu confesses avec ta bouche Jésus, qui est fils de Dieu, et qui est Dieu qui s'est fait chair, qui est mort pour vos péchés, enterré, ressuscité le troisième jour, si tu confesses de ta bouche qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux vivre pour Jésus, il va ton maître. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras, la Bible dit, sauvé. Donc, je vais vous donner l'occasion, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Dieu? Sinon, je vais compter à trois, je vais taper ma main. Si vous êtes là, vous voulez donner votre vie à Jésus, je vous lève la main haut dans l'air. Nous allons prier pour vous. Et juste avant de faire cela, je vous rappelle d'une chose que Jésus-Christ a dit lui-même, de sa propre bouche. Il a dit, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. » Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Alors nous ne devrions pas avoir honte de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Si oui, levez la main. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un ici? On donne à chaque dimanche dans cette occasion. Est-ce que je veux pas laisser une occasion passer sans avoir saisi le moment? Sinon, peut-être tout le monde ici l'a déjà fait. On va prier et on va faire cette confession de la foi ensemble. Si vous voulez grandir, si vous voulez devenir adulte en Jésus, faites cette prière avec moi. Père Céleste, je te remercie pour ton amour qui est répandu dans mon cœur. Je suis né de nouveau et je veux grandir. Je veux devenir adulte. Je veux atteindre la maturité. En toi, au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à planter et à arroser, tout en sachant que c'est toi qui vas me faire croire. Je désire la parole. Je vais marcher dans l'amour. Je vais maîtriser ma langue. Je vais marcher dans l'esprit. Et je vais apprendre à discerner entre le bien et le mal. Et tout cela, avec ton aide et par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime beaucoup Et on va chanter un dernier chant.